Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Bonjour chers auditeurs, nouvelle rentrée, nouveau jingle. Je reçois aujourd'hui Christian Piel, Urban Water.
Bonjour. Bonjour.
Urban Water avec un American accent. Yeah. Pourquoi avoir choisi un mot en anglais? Parce que c'est ça, une carrière internationale?
Ça s'est longtemps appelé composante urbaine.
Bah oui.
Et aujourd'hui, ça s'appelle Urban Water parce qu'on souhaite développer, et on a développé, notre activité à l'étranger.
Ah bon, c'est ça.
Yes.
Alors, Christian Piel, nous le connaissons hein, dans nos métiers, l'architecture, l'urbanisme, le paysage. Tu es surtout, oui, j'ai décidé de tutoyer les confrères ou équivalents. Tu es surtout au cœur d'une problématique importante, en tout cas habitée par cette problématique, qui est l'eau. L'eau qui nous a beaucoup manqué cet été, l'eau qui a fait la une des journaux. Alors, comment fait-on, comment se fait-il qu'il manque d'eau? Comment gère-t-on l'eau dans les villes, dans les campagnes?
Ce qui est intéressant, en tout cas, ce que je voudrais rappeler, c'est que longtemps, à partir de la fin du 19e, on a chassé l'eau de la ville via les tuyaux. Ensuite, à partir de 1980-90, on a commencé à se questionner sur l'eau dans la ville, surtout parce qu'elle générait un risque, elle inondait. Quoi. Ce qui est intéressant...
Le bruit des fontaines aussi.
Alors, le bruit des fontaines, bien sûr.
Il faut être poétique un petit peu.
Bien sûr. Et ça change depuis 5-6 ans.
D'accord.
D'une part, parce qu'il y a une réglementation qui impose de gérer les petites pluies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui fait qu'on doit construire aujourd'hui des villes qui sont spongieuses pour que l'eau ne retourne pas au réseau parce qu'elle se pollue
dans
le réseau.
Donc, moins de bitume et plus de sol perméable.
Exactement. Donc ça, c'est déjà, il y a eu un changement il y a 5-6 ans. L'eau risque est devenue l'eau aux ressources. Quoi.
D'accord.
Ce qui est intéressant ce qui est dommage et intéressant, c'est que depuis 2-3 ans, effectivement, on s'aperçoit qu'en France, contrairement à ce qu'on pensait, il peut y avoir un manque d'eau. Quoi. Alors aujourd'hui, ce manque d'eau, il est encore très ponctuel et très local, mais effectivement, il pourrait...
Mais le risque peut être plus important.
Oui, plus ça va, plus effectivement les pluies sont concentrées, sont des événements intenses, qui fait qu'il y a beaucoup d'eau qui arrive très soudainement, et donc elle a du mal à s'infiltrer. Donc elle ruisselle.
Bah oui, donc d'où la nécessité d'avoir des sols spongieux, poreux, etc. Mais comment fait-on pour garder un max cette eau, pour la récupérer, pour l'infiltrer?
La réponse est dans la question... L'idée, à mon sens, si on veut conserver cette eau, il faut se réinscrire dans le grand cycle de l'eau. Je dirais tout simplement, en rechargeant les nappes, on dispose dans le sol de capacités de stockage qui sont énormes, enfin, qui représentent des millions, je dirais, de petites cuves qu'on mettrait sous nos gouttières. Donc, il faut recharger les nappes, et pour ça, il faut...
On n'arrête pas de dire qu'elles sont à sec. Hein.
Alors
non. Parce qu'on a trop pompé dedans, parce que... Justement, les pluies d'orage...
Non, alors premièrement, elles ne sont pas toutes à sec. En Bretagne, elles ne le sont pas. Mmh. Effectivement, il y en a pas mal qui sont en déficit. Et c'est donc pour deux raisons, je dirais. On a certes beaucoup pompé dedans, mais on a par ailleurs empêché son infiltration, soit en milieu urbain parce qu'on a imperméabilisé les sols, soit en milieu agricole, parce qu'on a aujourd'hui industrialisé, artificialisé les sols. On peut dire que les sols agricoles d'une agriculture intense sont...
Comme du béton
c'est un coefficient d'imperméabilisation qui est égal à une ville très dense. Quoi. Un champ de maïs, c'est un coefficieent de 0,80 pour les spécialistes.
Non, bref. On n'a pas du tout cette impression-là. Nous, on a l'impression qu'en pleine nature, la terre continue à...
Non, c'est ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on ne recharge pas les nappes parce qu'on a artificialisé les sols.
Donc pas seulement en ville hein.
Non, pas seulement en ville. Les villes représentent, je sais pas, peut-être 10 ou 15% de la surface nationale, donc ça peut pas être la seule
raison. D'où la nécessité de faire ces énormes bassines.
Alors évidemment, donc on va sur le... les bassines...
Après, il faut effectivement en parler, parce que...
Bien sûr. Entre autres, voilà, quand on parle d'artificialisation, il y a par exemple ces bassines. Fondamentalement, on peut considérer que dans l'idée, pourquoi pas pomper dans la nappe l'hiver, il y aurait trop d'eau pour la stocker à ciel ouvert. c'est pas une très bonne idée, parce qu'en réalité, la nappe, elle contiendra l'eau et surtout, elle évitera l'évaporation,
mais
elle évitera
ça,
cette dégradation.
Mmh.
Mais effectivement, l'été, il y aura beaucoup moins d'eau dans la nappe. Pourquoi il y aura beaucoup moins d'eau dans la nappe? Parce que l'hiver, on n'aura pas forcément autant infiltré qu'on aurait dû infiltrer. Et donc, plutôt que de faire des bassines de ce type-là, il serait préférable que les modes d'agriculture retrouvent des principes plus naturels, retrouver des haies, retrouver des sillons qui sont perpendiculaires à la pente, redonner des limageurs aux ruisseaux qui ont été reformatés. Bref, il faut que dans la nature, dans les sols agricoles,
ce qu'on a démoli.
Il faut se fonder sur des solutions basées sur la nature. C'est très à la mode, mais c'est une réalité et c'est une très bonne idée. Et dans ce cadre-là, s'il y avait tout ça, pourquoi pas avoir des bassines probablement de taille
plus
bien
jolie.
Inférieure et puis surtout beaucoup mieux intégrées. Pourquoi ne
ouais.
pas s'être réinscrit là encore dans le cycle de l'eau, avoir fait peut-être quelques rétentions? Pourquoi l'écoulement de ces rétentions
par endroit, ça
serait
peut être
pas
des
ruisseaux,
des espèces de ruisseaux.
Voilà, pourquoi ça s'accompagne pas de végétation? Pourquoi ça s'accompagne pas de haies? Pourquoi avoir fait des choses aussi terribles que des trous pareils avec des bâches noires? Comment avoir cette approche encore du territoire?
Alors, on ne va pas tout mettre sur le dos des agriculteurs, même si on vient d'évoquer le fait qu'il y a plus de problématiques d'imperméabilisation des sols à la campagne qu'à la ville. Mais on trouve à la ville quand même des problématiques autres, puisque l'usage de l'eau, ou l'utilisation en tout cas de l'eau potable, on a quand même l'impression parfois qu'elle est mal utilisée, non?
Alors, déjà, j'ai pas dit que c'était plus imperméable à la campagne qu'à la ville. Mmh. Je dis, à la campagne, c'est également imperméable et très imperméable. Étant donné que ça couvre des surfaces très importantes,
plus
forcément,
importante, ouais.
ça impacte plus. Et par ailleurs, c'est vrai que j'ai pas souligné le fait qu'il y ait quand même du pompage en plein été, ce qui est quand même un souci, quoi. Voilà. Dans la ville, donc, également imperméable. Est-ce que on gâche de l'eau? Je ne sais pas, dans la ville. Encore une fois, l'eau, c'est pas comme l'électricité. L'électricité, une fois qu'on a consommé, elle a disparu. L'eau, elle n'a fait que passer. La différence, c'est qu'on va la polluer ou pas la polluer. Voilà. Donc, on va gâcher plutôt de la dépollution. C'est ça qu'on va gâcher, mais on ne va pas gâcher l'eau.
Hein, et la voilà. dépollution coûte très cher de toute façon.
Exactement, elle coûte très cher. Mais, alors, je ne connais pas vos questions suivantes, mais elle coûte très cher, mais par exemple, pour dépolluer une eau de façon à ce qu'elle soit potable, quand c'est dans des usines de dépotabilisation financées, enfin de dépollution, financées par la collectivité, c'est des coûts bien moindres que lorsque, dans un bâtiment collectif, on a tout un appareillage qui va permettre de dépolluer les eaux pluviales pour une qualité moindre. Donc en termes de coûts, finalement, je sais que là je vais me faire un tas d'ennemis, c'est beaucoup moins cher...
D'utiliser l'eau potable pour les toilettes.
Voilà.
D'où la nécessité de garder l'eau potable dans les toilettes, puisque les petits-enfants sont censés boire cette eau, puisque c'est quand même un des adages de la réglementation française.
Alors,
de considérer que les enfants puisent leur eau dans l'eau des toilettes.
Non, mais on peut comprendre que pour des raisons sanitaires, donc les administrations, l'ARS entre autres, interdisent cette chose-là. Pourquoi pas? Premièrement. Deuxièmement, moi je pense qu'il pourrait y avoir des solutions beaucoup plus simples que d'avoir des grosses machineries comme on peut avoir quelquefois et qui généralement ne fonctionnent pas pour recycler les eaux pluviales par exemple et faire en sorte qu'elles aillent dans les toilettes. C'est souvent assez compliqué et souvent ça ne fonctionne pas. En revanche, des choses très simples, prendre l'eau de sa douche pour mettre dans la chasse d'eau. Si c'est gravitaire, franchement, c'est pourquoi ne pas faire ça, quoi.
C'est bien pour une maison individuelle, mais aujourd'hui, lorsqu'on achète dans un bâtiment collectif ou on loue dans un logement collectif, les bailleurs ou les promoteurs ne sont pas passés par la case. Je vais réfléchir à l'idée d'utiliser l'eau de la douche pour les toilettes.
Eh bien, c'est un peu dommage parce que je pense que c'est une des pistes. Vraiment, encore une fois, bon, peut-être que
après il y a une problématique de réglementation.
Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, dans la réglementation, on est très critique en général, il faut savoir quand même que, je dirais, grâce aux sécheresses qu'on a pu connaître ces derniers étés, la réglementation est en train de s'ouvrir et de petit à petit permettre
évoluer.
Des choses qui, qui n'étaient pas permises. Pas forcément au niveau domestique, mais à plus grande échelle, peut-être qu'on va en parler, comment on peut récupérer comme des eaux grises pour faire des choses dans les espaces publics, extérieurs, comment on peut récupérer les eaux d'Exor, donc c'est les eaux de nappe pour d'autres usages. C'est en cours et ça va aller assez vite, je pense. Donc je suis assez optimiste sur ça.
C'est-à-dire que dans 2 ans, tout le monde utilise les eaux grises pour arroser les trottoirs et nettoyer les belles avenues parisiennes.
Alors dans 2 ans, je ne sais pas. Mais alors c'est déjà le cas. Hein, il y a quelques et on est en train d'en mener une à Strasbourg où on récupère les eaux des piscines publiques pour hydrater les espaces verts et faire en sorte qu'en plein été ces espaces verts soient très très verts, très rafraîchissants. Et pourquoi ils sont rafraîchissants? Parce que la végétation, elle est très bien hydratée. Il peut y avoir de l'évapotranspiration. Ben, bref, on crée des îlots de fraîcheur avec des eaux grises. On nettoie effectivement les trottoirs. On arrose les parcs. Enfin, on fait un tas de choses avec les eaux grises. Donc ça, c'est quelque chose.
Alors, est-ce qu'on peut revenir juste à la définition de l'eau grise? Parce
oui,
que
pardon.
Je suis pas sûr que tous les auditeurs.
C'est l'eau potable qu'on a utilisée. Donc,
c'est-à-dire,
elle est plus forcément
potable. Y compris avec des détergents.
Alors, ça peut être...
Comment fait-on pour enlever...
Il y a tout un tas d'eau grise. Mais ouais. Par exemple, l'eau des piscines, c'est une eau qui est très propre et qui est en abondance en plein été. Donc, très intéressant. Un tout petit peu de chlore, mais qui s'évapore très vite.
Mm-hmm.
Et effectivement, il peut y avoir des eaux grises qui sont très polluées. Bon, c'est à nous aussi de faire en sorte qu'on prenne les eaux les plus intéressantes. Je voulais dire une chose quand même. L'essentiel, c'est de pomper, c'est de stocker dans la nappe. Il faut réinfiltrer les eaux grises dans la nappe après des pollutions. Il faut réinfiltrer les eaux pluviales dans la nappe. Et une fois qu'on aura ces nappes bien chargées, on pourra avoir des usages, entre autres l'été, et donc moins de sécheresse.
Alors, reconstituer les nappes avec des eaux grises dépolluées, comment fait-on le filtre, hein? Parce que quelque part, c'est compliqué de canaliser l'eau grise en disant tu vas là, pas là, et on a besoin d'avant d'infiltrer, de dépolluer.
Il n'y a pas une eau grise, il y a plein d'eaux grises. Hein. L'eau industrielle, presque, c'est aussi de l'eau grise. Et en fonction de comment elles sont chargées, il y a des solutions. Soit des solutions très techniques, soit aussi ce qu'on appelle la phytorémédiation. Donc c'est des végétaux, c'est des filtres à sable qui permettent de dépolluer de façon conséquente et qui, elles aussi, s'inscrivent dans le paysage et dans l'environnement. Donc, c'est ces approches-là qui sont à développer.
Bon, je ne suis pas sûre qu'on a tout développé, mais on recommence à la prochaine émission. Qu'en penses-tu?
Ben avec plaisir. Avec
à bientôt, chers auditeurs.
Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.